de lire, c'est une histoire qui est un peu originale. Jésus fait toujours des choses originales, dans le sens où il est à l'origine de tout, mais aussi, vous savez qu'à l'époque où il était sur Terre, il faisait des choses que personne d'autre n'avait fait avant lui. Il prêchait, nous dit-on, avec une autorité, je dirais avec une conviction, une certitude de la vérité de ce qu'il disait, qui le distinguait des autres hommes, des hommes religieux qui prêchaient d'habitude. Vous vous rappelez cette réflexion de l'Évangile où les gens disent à la sortie de la synagogue, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Alors, Jésus fait des choses originales, aujourd'hui encore, puisque nous savons d'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Mais je crois que le miracle dont notre frère a lu le récit il y a un instant, je pourrais dire défraye la chronique par une raison toute simple, c'est que, à ma connaissance, c'est la première fois que Jésus s'y reprend à deux reprises pour guérir quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il passait là par un moment de faiblesse, je ne pense pas. Parce que s'il était vraiment passé par un moment de faiblesse, cet aveugle n'aurait pas recouvré la vue. Je crois que Jésus est capable de guérir quelqu'un instantanément. Il l'a donné l'exemple, bien souvent. Tous les autres miracles, qu'il s'agisse de guérison ou de victoire sur la nature, je pense à la multiplication des pains, ont été accomplis par Jésus sans faiblesse. Et ici-là, Jésus ne fait pas preuve de plus de faiblesse. Que se passe-t-il ? Jésus prend l'aveugle par la main, il l'emmène un petit peu à l'écart du village, il lui mouille les yeux avec sa salive et il lui impose les mains en lui disant « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et l'homme, vous l'avez lu avec moi, dit « Je vois des hommes. » Donc déjà, le miracle est en marche. « Je vois des hommes. » En effet, il y avait des hommes à quelques distances. Mais là où ça se complique, c'est quand cet homme dit « Je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. » Alors, on ne sait pas de quel arbre il parlait, mais il est vrai que d'une manière générale, entre un homme et un arbre, comme on dit en français populaire, il n'y a pas photo. On distingue tout de suite l'un de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Il voit des hommes, il les voit comme des arbres, mais le plus beau reste à venir, comme des arbres qui marchent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres qui marchaient, sauf quand quelqu'un se déguise, vous savez, avec un arbre. Bon, toutes sortes de déguisements existent et on peut éventuellement se déguiser comme cela. Mais c'est quelque chose d'assez curieux. Et je me suis interrogé assez longtemps là-dessus. Bien sûr, il s'agit ici d'un problème de vision. Vous savez que la vision est une chose importante. Il y avait, peut-être encore maintenant, un vieil adage qui disait « Au volant, la vue, c'est la vie ». Voulant dire par là, quand on conduit une voiture, il faut avoir une bonne vue. Et dans tous les domaines de la vie, pas seulement dans la conduite automobile, il est important de bien voir. Je crois qu'il est important de bien voir pour toutes sortes de raisons. Je me souviens, un jour, j'étais jeune à l'époque, et j'étais adolescent, et avec mes parents et mes frères, nous allions dans un rassemblement de chrétiens évangéliques tziganes. Nous allions tous les ans dans le rassemblement. C'était une convention qu'ils appelaient internationale, qui avait lieu tous les étés, dans des endroits différents de France. Et là se rassemblaient non seulement des milliers de tziganes convertis, chrétiens, nés de nouveau, mais également tous ceux qui voulaient venir. Donc, avec mes parents, nous allions dans ces conventions tziganes. Et je me souviens d'une anecdote qui illustre parfaitement ce qui peut arriver quand on ne voit pas bien. Nous avions dans l'église où nous étions, dans la ville où j'ai grandi, à Nantes, nous avions dans cette église un homme qui était CRS. Et nous avions également un autre homme. Je ne sais plus ce qu'il faisait comme métier. Je crois qu'il était, quand j'étais adolescent, il était déjà à la retraite. Je ne me rappelle pas quel métier avait exercé. C'était un homme très simple, très direct, parfois même qui agissait d'une manière un peu précipitée. Ce n'était pas la personne qui réfléchissait 10 fois avant d'agir. C'est quelqu'un qui suivait son élan. Et cet homme, malheureusement, ne voyait pas très très bien. Alors un jour, nous arrivons dans l'hôtel où nous étions, plutôt cet homme arrive dans l'hôtel où il hébergeait pendant cette convention de Zigane, et il voit dans l'entrée de l'hôtel un CRS. Alors il distingue l'uniforme et il croit reconnaître ce brave ami qui nous avions dans l'église et qui était lui-même CRS. Manque de chance, ce n'était pas le bon. Ce n'était pas le membre de notre église. C'était un CRS qui était là pour le service d'ordre pendant cette convention. Alors il le voit et croyant que c'était son brave ami de Nantes qui était là comme CRS, alors il se précipite vers lui, il dit « Oh mon frère, quelle joie de te voir !» et puis il l'embrasse de sa manière à lui, très précipité, très enthousiaste. Et le CRS est resté là comme cela, regardez. Vous savez que ce n'est pas tous les jours que les CRS se font embrasser. Ça arrive peut-être quelquefois exceptionnellement dans certains mouvements qui ne se veulent pas trop violents, mais c'est quand même rare. Et les CRS qui sont là pour le service d'ordre se font rarement embrasser. Et c'est au moment où il embrassait cet homme que ce brave frère s'est rendu compte que ce n'était pas le bon. Enfin, ce n'est pas le bon, c'est pas qu'il était mauvais, hein. Ce n'était pas le bon pour l'occasion. Et cela illustre, vous savez, le fait qu'il faut avoir une bonne vue. Bon, là, ça n'a pas eu de conséquences. Hein. Il ne s'est pas fait arrêter pour, on ne va pas dire outrage à agent de la force publique, parce que ce n'est pas un outrage, c'est le contraire d'un outrage. C'est affection prononcée pour un agent de la force publique. Donc, cette histoire n'a pas eu de conséquences désastreuses. Mais parfois, c'est plus dangereux. Parfois, je me souviens que moi aussi, j'ai eu des problèmes de vue à une certaine époque de ma jeunesse. D'ailleurs, c'est pour cela que je porte des lunettes aujourd'hui. Je devenais myope et je ne voulais pas porter de lunettes parce que, je ne voulais pas porter de lunettes. Et alors, je me rendais compte que ça me posait des problèmes parce que dans la rue, quand je croisais des gens que je connaissais, je ne les reconnaissais pas, sauf au moment où ils arrivaient à ma hauteur. Donc, je ne les saluais pas parce qu'une fois qu'ils étaient à ma hauteur, c'était trop tard. On marchait chacun dans son sens. Et puis, il m'arrivait aussi le contraire, c'est que rencontrant des gens qui venaient à ma hauteur, je croyais à quelques distances que c'était des gens que je connaissais. Donc, je les saluais. Et puis, ils me regardaient comme cela d'un air étonné, on ne se connaît pas. Et vous savez donc qu'avoir une mauvaise vue, c'est toujours problématique. Alors, quel enseignement peut-on tirer de cette histoire de l'évangile de Marc, de ce miracle unique en son genre? Jésus s'y est pris à 2 reprises. L'homme a vu des hommes, mais comme des arbres, première erreur, et des arbres qui marchent. Ce qu'il a vu, il a vu quelque chose. Il a dit, je vois des hommes. Et d'ailleurs, on ne nous dit pas si cet homme était aveugle de naissance. Je suppose, à son comportement, que ce n'était pas un aveugle de naissance parce qu'il savait comment étaient des hommes. Ces hommes ne parlaient pas forcément, mais ils savaient distinguer un homme d'un arbre. Et pourtant, il a vu ces hommes et il a mal interprété ce qu'il a vu. Il a vu les hommes, il avait vu des arbres, mais il voyait les deux comme étant plus ou moins similaires. Et puis, une deuxième chose, c'est que quand il a vu ces hommes, alors c'est normal qu'un homme marche. Ça l'est moins quand c'est un arbre qui marche. Donc, il a vu ces hommes. Il les a pris pour des arbres, mais il les a vus comme des arbres qui marchent, alors qu'en fait, c'était des hommes qui marchaient. La vision, elle est bonne, la vision n'est pas bonne, et quand la vision n'est pas bonne, mais quand on voit quand même quelque chose, ça pose problème. Je crois que dans la vie spirituelle, puisque nous sommes là d'abord pour parler de cela, il y a 3 sortes de visions. Je m'arrêterai en tout cas à 3 sortes de visions cet après-midi. Il y a d'abord la vision de l'homme qui n'a pas été transformé par Dieu, l'homme tel qu'il est, à l'état naturel. La vision de l'homme, quelle est-elle? Je pense qu'on peut l'assimiler, même s'il s'agit d'un texte de la Bible. Vous savez, cette vision qu'avait le prophète Samuel lorsque Dieu l'a envoyé pour choisir, pour oindre d'huile, le futur roi David. David était aussi un jeune garçon, peut-être qu'il n'avait que 12, 13 ou 15 ans quand cela est arrivé. Nous n'avons pas de précision là-dessus, mais c'était un jeune garçon. C'était le plus jeune de la famille. Il n'était pas en âge pour aller à la guerre, puisque ses frères étaient à la guerre, mais pas lui. Lui, il gardait les moutons, et souvent, à l'époque, on envoyait des jeunes garçons, même depuis l'âge de 10 ans, même 8 ans, 9 ans, garder les moutons. Ce n'était pas un métier trop dangereux, même si David va raconter que parfois on fait des rencontres dangereuses dans ce métier. Alors, le prophète Samuel va incarner pendant quelques instants ce que j'appellerais la vision de l'homme. Il arrive dans la maison des parents de David, et Dieu, il le sait, l'a envoyé pour choisir le nouveau roi. Alors, il demande au père de David, Isaïe, de faire venir tous ses fils. Et lorsqu'il voit les 7 frères aînés de David défiler, enfin, il voit d'abord le premier, l'aîné, et quand il voit l'aîné, il se dit, c'est certainement lui. Pourquoi cela ? Parce que le frère aîné de David, Éliab, est très grand. Alors pourquoi est-ce que Samuel, qui pourtant est un prophète de Dieu, va regarder, comme le dit le texte, à l'apparence, au point que Dieu va lui dire, l'Éternel Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Parce que le prophète Samuel avait déjà choisi un roi. Nous lisons dans quelques chapitres précédents, au chapitre 10 du premier livre de Samuel, que lorsque Samuel avait été envoyé pour choisir le premier roi, plutôt que Dieu avait choisi, le roi Saül, il est dit que Saül était un homme timide, mais c'était un homme fort et qui dépassait tous les autres hommes d'Israël d'une tête. C'est impressionnant, quelqu'un qui nous dépasse d'une tête. Saül était très grand, plus grand que tous les hommes du pays. Alors quand Samuel voit le frère aîné de David se présenter et qu'il voit que c'est un homme qui est grand, peut-être qu'il mesurait comme Saül 1m90 ou 1m95, alors il se dit, c'est lui. Parce qu'il croit que Dieu choisit toujours comme roi les plus grands. Vous savez que cela, c'est la vision de l'homme encore aujourd'hui, la vision de l'homme naturel. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que d'après une étude qui avait été faite, je crois que c'est en France, ça a été fait en France il y a à peu près un an, on a remarqué, paraît-il, enfin ceux qui ont fait l'étude, ont constaté que d'une manière générale, quand on est grand et qu'on est beau, hein, on a presque tout, mais on n'a pas encore tout, quand on est grand et qu'on présente bien, on a beaucoup plus de chances de trouver un travail que si on est petit et qu'on présente moins bien. Bon, maintenant, il y a des petits qui se présentent très bien, il y a des grands qui ne présentent pas bien. Mais c'était la conclusion de l'étude. Les gens qui sont grands, assez costauds, je pourrais peut-être ajouter, et qui présentent bien, ont plus de chances d'être embauchés que ceux qui sont plus petits et moins bien présentables. Et la deuxième chose qu'ils ont constatée, c'est que lorsque un grand est embauché, il a plus de chances, paraît-il, d'après toujours cette étude, il a plus de chances d'être mieux payé que s'il est moins grand. Ça, c'est la vision de l'homme. J'ose espérer que les compétences jouent un rôle quand même quelque part dans tout cela. Mais c'est une étude qui a été faite récemment dans notre pays. Samuel, le prophète Samuel, avait l'impression que Dieu faisait toujours pareil. Parce que Dieu avait choisi un grand, il allait cette fois-ci encore choisir quelqu'un de grand. La vision naturelle de l'homme, elle est faite de préjugés. On se forme des préjugés au sujet d'un événement futur et de son déroulement. On est souvent troublé quand les événements qu'on avait prévus plus ou moins, mais encore faut-il peut-être s'abstenir de prévoir des événements, mais lorsque l'événement ne tourne pas tout à fait comme on l'attendait. On a des préjugés qui sont dus à son milieu d'origine, à son éducation. On a des préjugés qui sont dus à l'époque. Les disciples de Jésus avaient eux aussi des préjugés. Et nous allons le voir maintenant en parlant d'une deuxième sorte de vision que j'appellerais la vision de l'homme religieux. L'homme religieux, c'est notre aveugle qui est touché une première fois par Jésus. Avant, il ne voyait rien. Maintenant, il va commencer à voir quelque chose. Et vous avez vu le texte, il a commencé à voir donc ces hommes, des êtres humains, c'était peut-être aussi des femmes, des hommes, des femmes, des êtres humains, mais il les voit comme des arbres et qui marchent. Alors c'est vrai que les hommes marchent, mais les arbres non. Donc il y a une vision qui a reçu un certain apport. Jésus a touché cet homme puisqu'il n'est plus aveugle. C'est la première bonne nouvelle. Il n'est plus aveugle, pourquoi ? Parce que s'il avait été aveugle, il ne verrait pas les hommes. Et il ne pourrait même pas dire qu'il ressemble dans sa vision à lui à des arbres. Sa vision a été touchée une première fois par Jésus. Mais elle n'est pas encore parfaite. Peut-être n'a-t-il pas encore assez de foi pour que Jésus puisse transformer sa vision. Il nous fait penser, cet homme, dans cette vision imparfaite, mais en voie de reconstitution, il nous fait penser, par exemple, aux disciples de Jésus. Vous savez que pendant les 2 années et demie à 3 années et demie, plus ou moins, on ne sait pas exactement combien de temps a duré le ministère que l'on appelle le ministère public de Jésus, pendant ce ministère public, les disciples de Jésus ont vécu toutes sortes d'aventures. Ils ont appris au contact de Jésus, ils ont appris bien des choses. Ils ont appris à découvrir Dieu d'une autre façon, sous un autre angle. Ils ont eu une nouvelle vision. Alors, les disciples sont un peu comme cet homme aveugle, et peut-être que nous le sommes nous aussi, dans notre marche avec Dieu. Nous ne voyons pas encore parfaitement, nous commettons des erreurs, nous voyons parfois des choses qui ne sont pas très logiques, et nous nous interrogeons. Les disciples de Jésus, qui par exemple un jour, vous rappelez, alors que Jésus voulait traverser un village de Samarie, alors qu'entre Juifs et Samaritains, à l'époque, il y a 2000 ans, il y avait ces problèmes interraciaux, les Juifs n'acceptaient pas les Samaritains comme de vrais Juifs, parce que quelques siècles plus tôt, la population samaritaine, qui était à l'époque constituée de Juifs surtout, s'était mélangée avec des nations voisines et donc n'était plus des Juifs à 100%. Donc entre Juifs et Samaritains, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes qui faisaient qu'ils ne voulaient pas se fréquenter. Alors Jésus veut passer par ce village samaritain et la Bible dit, les Samaritains, en apprenant que Jésus non seulement était juif, mais se rendait à Jérusalem, n'ont pas voulu l'accueillir. Parce que les Samaritains disaient, ce n'est pas Jérusalem qu'il faut adorer, chez nous c'est sur le mont Garizim. Alors, pour cette querelle religieuse, ces hommes-là n'ont pas voulu accueillir Jésus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le comportement des disciples de Jésus. Certains disciples de Jésus, voyant que les Samaritains ne voulaient pas les accueillir, vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus ? Ils ont dit, Seigneur, ces gens-là ne veulent pas nous accueillir. Veux-tu, Seigneur, que nous disions au feu du ciel de descendre et de les détruire tous ? Alors cela, quelque part, j'appelle ça la vision religieuse. Qu'est-ce qu'elle a, je vais dire, de religieux ? Elle est religieuse dans le sens où elle interprète les choses avec un apport de religion. L'apport serait, ces hommes-là ne veulent pas accueillir Jésus, donc il faut faire quelque chose contre eux. Le problème, c'est que la vérité n'est pas là. La vérité, ce n'est pas qu'il faut détruire les gens qui ne croient pas en Jésus. Il faut avoir de la compassion pour eux. Dieu dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, que Dieu a tellement aimé le monde, c'est-à-dire aussi bien les Juifs que les Samaritains, que les Français, que les Vietnamiens, que je ne sais pas s'il y a d'autres nationalités parmi nous, peu importe, Dieu aime tous les hommes autant. Il n'aime pas une nation plus qu'une autre. Je me souviens un jour, je me trouvais dans l'avion, je me dirigeais vers l'Afrique du Sud et je me trouvais assis à côté de deux hommes qui, d'après leur tenue, d'ailleurs seul l'était, étaient certainement de religion musulmane. Et alors ils m'ont demandé, mais monsieur, est-ce qu'on pourrait vous poser une question ? Je dis oui, pourquoi pas, nous étions dans l'avion, nous volions au-dessus de l'Afrique du Sud et pourquoi pas en discuter ? Ils me disent, mais pourquoi venez-vous en Afrique du Sud ? Visiblement, ils étaient du pays. Je leur dis, bien, je viens assister à un congrès, une conférence chrétienne. Alors ils me disent, vous êtes chrétien vous-même ? Je dis oui. Je pense pas leur avoir dit que j'étais pasteur, mais enfin bon, je dis que j'étais chrétien. Alors ils m'ont dit, mais pourquoi vous, chrétiens, vous n'aimez pas les Palestiniens? Alors je l'ai regardé, j'ai dit, mais nous, chrétiens, nous aimons les Palestiniens. En tout cas, moi, chrétien, j'aime les Palestiniens. Dis non, vous n'aimez que les Juifs. Je dis non, j'aime les Juifs. J'aime les Palestiniens. J'aime les Égyptiens, les Syriens, les Jordaniens, les Irakiens, et ainsi de suite, et les Européens, et les Américains, et les Vietnamiens, les Chinois, et je ne vais pas faire toute la liste, il y a 200 pays dans le monde, au moins, et peut-être plus encore de nations. Ils m'ont dit, mais alors, pourquoi aimez-vous les Palestiniens, vous? Je dis, mais parce que notre chef, notre maître, Jésus, nous a dit qu'il fallait aimer tous les hommes. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, les 200 ou 250 différents peuples, et même plus, qui peuplent la terre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Les disciples de Jésus apprenaient. Ils étaient dans l'étape où cet homme a commencé à ouvrir les yeux et tout de suite il se dit, ah, je vois des hommes. Ils ressemblent à des arbres et ils marchent. Sa vision n'était pas parfaite. Bien des fois, les disciples de Jésus ont exprimé cette imperfection de la vision qui a commencé à être touchée par Jésus mais qui a besoin de l'être encore plus. Rappelez-vous le jour où les disciples de Jésus sortaient avec Jésus du temple. Je crois que c'est Jean chapitre 9. Et lorsqu'ils sortent du temple, sur le côté, au bord de la rue, sur le trottoir, on dirait aujourd'hui, ils voient un homme qui mendie, qui fait l'aumône. Cet homme, tout le monde sait apparemment qu'il est aveugle de naissance. Alors, ces disciples qui sont en train d'apprendre, ils ne sont pas à la fin du ministère de Jésus, ils sont au milieu, plus ou moins. Et il pose à Jésus la question en voyant cet homme qui est aveugle depuis sa naissance. « Mais Seigneur, cet homme, s'il est aveugle, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché, ont commis quelque chose de mal, ou est-ce que c'est lui qui a commis quelque chose de mal pour qu'il soit né aveugle ?» Alors on peut se dire, mais quelle question! D'abord, la Bible ne dit jamais qu'un homme est malade parce qu'il a commis quelque chose de mal. Je dis cela parce que même dans les églises chrétiennes, on entend parfois dire cela. J'ai entendu dire cela. Telle personne est malade, elle a sans doute commis quelque chose de mal. Mais le problème, c'est que la Bible ne le dit jamais. Les apôtres, oui, les futurs apôtres disent, Seigneur, est-ce que c'est parce que ses parents ont commis quelque chose de mal? Comme si, quand un parent commet des fautes, encore aurait-il fallu que ses parents commettent, cette faute va retomber sur l'enfant. Quelle injustice, on pourrait dire, quelle cruauté. Et puis, la chose la plus extraordinaire, c'est qu'ils puissent penser un instant que si l'enfant est né aveugle, c'est parce qu'il a commis quelque chose de mal. Donc, avant de naître. Or, comment un enfant peut-il commettre quelque chose de mal alors qu'il n'est pas encore né? Mais cela, c'est la religion. Il paraît qu'à l'époque de Jésus, certains chefs religieux affirmaient qu'un enfant pouvait commettre des fautes dans le ventre de sa mère. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça me paraît quand même un peu, si ce n'est pas beaucoup, très exagéré. Mais il y avait toutes sortes d'idées. Vous savez que la religion a vraiment sa particularité, une particularité en tout cas, dans le sens qu'elle produit toutes sortes d'idées fantaisistes. On est toujours tenté, les chefs religieux sont souvent tentés, au cours de l'histoire ça a été cela, tenter de donner des explications à ce qui peut paraître quand même et qui devrait rester inexplicable. Il y a des mystères dans la vie. Il y a des mystères. La naissance de cet homme, aveugle de naissance, aveugle donc, sa naissance en étant aveugle, est un mystère. Et il y a d'autres mystères comme cela. Cela donc, c'est la vision de l'homme religieux. La vision de l'homme religieux, elle est humaine, mais elle a subi, elle a bénéficié, je dirais plutôt, d'un apport de spiritualité. Mais cet apport est incomplet. Vous savez qu'on voit cela tout le temps, moi j'entends cela tout le temps, j'entends toutes sortes de réflexions. Je prends un exemple. Dans nos églises évangéliques, nous prenons ce que nous appelons la Sainte Cène. La Bible dit que la Sainte Cène est pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait une expérience avec Dieu, qui maintenant marchent en nouveauté de vie, qui sont des enfants de Dieu au sens où l'Évangile le dit, et les épîtres qui suivent, les lettres qui suivent. J'ai connu souvent des gens qui, tout en se revendiquant chrétiens, venaient au culte, comme ici cet après-midi, et lorsqu'arrivait le moment de la Sainte Cène, ne voulaient pas la prendre alors qu'ils étaient chrétiens, alors qu'ils avaient vraiment vivaient la vie chrétienne. Et quand nous les interrogions, ils disaient, je me souviens d'un homme qui me disait un jour, moi aujourd'hui je ne vais pas prendre la Sainte Cène. Je le savais parce que je lui avais demandé de participer à la distribution de la Sainte Cène. Alors quand je lui demande, est-ce que tu voudrais bien distribuer la Sainte Cène tout à l'heure pendant le culte, il me dit, non pasteur, je préfère ne pas le faire. Alors le connaissant bien, étant très libre avec lui et lui avec moi, je lui dis, mais je peux savoir pourquoi tu ne veux pas distribuer la Sainte Cène? Et il me dit, parce que ce matin, en me levant, je me suis disputé avec ma femme. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Enfin, ceux qui sont mariés le savent. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Une dispute commune, une dispute, je n'allais pas dire courante, parce que ça laisserait entendre que c'est souvent le cas, mais une dispute comme une autre, rien de bien grave, rien de tragique. Je lui dis, mais est-ce que, avant de venir au culte, vous vous êtes réconcilié? Il dit, ah oui, oui, pas de problème, on s'est réconcilié, c'est pas grave, tout est rentré dans l'ordre. Je lui dis, mais alors pourquoi ne veux-tu pas prendre la Sainte Cène? Puisque vous vous êtes réconcilié, la faute est effacée. Il dit, bon, alors je veux bien prendre la Sainte Cène, mais je ne veux pas la distribuer. Alors je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté, dans ces cas-là, il ne faut jamais insister. Je dis, bon, alors prends-la. C'est déjà une chose. Je ne sais pas ce qui empêchait qu'il la distribue. Peut-être que c'était le fait qu'il y a eu quand même cette dispute. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit que quand un péché est effacé, il n'en reste rien. C'est comme si le péché n'avait pas été commis. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Cela, c'est encore une teinte de religieux qui vient se greffer sur la réalité. Mais l'homme a besoin d'être touché une deuxième fois par Dieu, par Jésus. Alors, il est dit, quand l'homme répond à Jésus, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, alors il vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. À ce moment-là, il a vu les hommes qui marchaient. Mais il a compris, il a vu tout de suite qu'entre un arbre et un homme, il y a une grosse différence. Quel que soit l'arbre, il y a une grosse différence. Il a vu tout distinctement. La vision de l'homme, que j'appellerais la vision de l'homme spirituel, est supérieure à celle de l'homme religieux. L'homme religieux a une vision qui n'est pas très rationnelle. Elle se veut spirituelle, mais elle n'est que religieuse. La vision spirituelle, d'abord, elle intègre l'expérience de la grâce. Elle est différente de la vision humaine. Parfois, la vision humaine est logique. Mais la grâce n'est pas aussi logique que cela. La grâce, c'est le principe qu'il y a un Dieu grand, puissant, qui existe et qui s'intéresse à la vie des hommes, des êtres humains, et sachant que l'homme ne peut pas se réformer tout seul, sachant que l'homme ne peut pas changer de vie tout seul, Dieu lui donne le moyen de le faire. Il met en lui, il pardonne d'abord ses fautes, il lui donne une nouvelle nature, et il est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, que l'Esprit de Dieu vient lui-même habiter cet homme ou cette femme, bien sûr cet être humain, afin de lui donner une nouvelle nature, qui lui permettra d'accomplir ce que Dieu veut naturellement. La vision spirituelle, de l'homme spirituel, Elle voit jusqu'au fond du cœur. Elle est régénérée, transformée par la grâce. Elle ne voit plus les Samaritains comme des Samaritains, mais comme des êtres créés par Dieu. Rappelez-vous cette histoire de cette petite servante qui avait été faite prisonnière par le général syrien Naaman. Le général syrien avait conduit l'armée syrienne dans une invasion du pays d'Israël, et dans cette incursion, il y avait certainement eu des morts, des blessés, des prisonniers, et parmi les prisonniers, une jeune fille, probablement une quinzaine d'années environ, qui avait été emmenée par le général Naaman pour être sa servante. Cette jeune fille, peut-être, avait perdu sa famille. En tout cas, elle avait été arrachée à sa famille pour aller au service du vainqueur, c'est-à-dire de l'ennemi. Que se passe-t-il un jour ? Ce général tombe malade. On va dire, en prenant sa douche un matin, tout d'un coup, il remarque des taches bizarres, des choses bizarres sur sa peau. Très vite, il va voir un médecin, on imagine cela facilement, un des meilleurs médecins, sinon le meilleur médecin de la capitale, et puisque c'était l'homme de confiance du roi, et le médecin dit « c'est la lèpre ». Vous imaginez, pour un homme de ce standing, apprendre qu'il est atteint d'une maladie qui va l'obliger à vivre en reclus, à l'extérieur, à l'extérieur de la société. Il y a donc cette jeune fille qui est dans son palais, qui est dans sa maison, dans sa villa, et qui apprend que son maître est malade et que seul un miracle divin peut changer sa situation. Cette jeune fille n'a pas une vision humaine de la chose. Si elle avait une vision humaine, elle se serait dit « cet homme a ce qu'il mérite. Il a envahi notre pays. Il a fait des morts, des blessés, il a peut-être tué ses parents, il m'a faite prisonnière, je ne vais rien dire, mais au fond de moi, je suis bien contente. » Ça, c'est la vision humaine. Elle aurait pu avoir une vision religieuse. « Je suis désolé pour lui, je ne lui veux pas de mal, mais quelque part, il y a une justice sur terre. Dieu m'a vengé. » Ça, ce serait la vision religieuse. Mais la vision spirituelle, la vision que Dieu donne, parce que Dieu nous aime tous, c'est la vision qu'elle va avoir. En voyant son maître malade, elle va dire « Moi, je peux aider. Moi, je peux faire quelque chose pour mon maître. Il a envahi mon pays, c'est pas grave. Je laisse ça de côté. Il m'a fait prisonnière comme d'autres. Je laisse ça de côté. Je sais que Dieu est bon et que Dieu, s'il le veut, guérira cet homme. Et il fera du bien à mon nouveau maître. » Cette jeune fille a les yeux et la vision de Dieu, parce que Dieu aime tous les hommes, quoi qu'ils aient fait auparavant. Il veut les changer. Vous savez que la Bible dit dans le livre du prophète Ézéchiel, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. Parfois, cela est difficile à comprendre. Parfois, cela est difficile à accepter. La Bible nous montre que Dieu a pardonné à des hommes qui avaient commis des choses extrêmement graves, extrêmement douloureuses. Et pourtant, Dieu dit qu'il aime tous les hommes et que ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change. Et Dieu peut changer les hommes. Lorsque cette petite fille a rendu témoignage de l'amour et de la grandeur de Dieu, son maître est allé en Israël, dans le pays qu'il avait envahi auparavant. Il est allé en toute humilité. Et c'est parce qu'il a accepté de s'humilier qu'il a été guéri par le prophète Élisée de sa lèpre de la part de Dieu. Alors, la question aujourd'hui, c'est quelle vision avons-nous ? Ou quelle vision voulons-nous avoir ? Voulons-nous garder la vision naturelle des choses, les yeux de l'homme ? Quand on est grand et beau, on a plus de chances d'avoir une bonne vie que quand on est plus petit et moins beau. Bon. Est-ce qu'on veut avoir une vision religieuse, à savoir une vision humaine qui est améliorée, plus ou moins, par un apport incomplet de spiritualité, ou est-ce que nous préférons la vision de Dieu qui regarde tous les hommes de la même manière, qui donne à chacun sa chance, et qui dit à chacun, si tu veux voir une vie nouvelle, viens à moi. Je pardonnerai tes fautes, je te donnerai par mon esprit les moyens de vivre une vie nouvelle. C'est cette vision qu'ont acquis les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, avec le temps. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, ils ont découvert une vie nouvelle. Ils se sont vus faire des choses qu'ils n'avaient jamais pu faire auparavant. Ils se sont vus accomplir des miracles comme Jésus, et comme Jésus le leur avait dit. Celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais, il en fera même de plus grandes. Alors cette nouvelle vision leur a permis de partir à la conquête du monde quelque part. Et c'est cette vision que Dieu veut nous donner, que son nom soit béni.